Oui, bonjour. Je vais vous donner un petit aperçu des récits en Allemagne, fait dans une étude pilote de 49 récits dans trois écoles en Allemagne. Les trois écoles sont situées géographiquement dans des lieux significatifs. Une se trouve à Leutkirch, dans le sud de l'Allemagne, dans la zone de l'ancienne RFA, l'Allemagne de l'Ouest. L'autre se trouve à Oranienburg, une petite ville près de Berlin, dans le territoire de l'ancien RDA, l'Allemagne de l'Est. Et le troisième, la troisième se trouve au centre de Berlin, dans le quartier Neukölln, qui est connu parce que là vivent dont 90% des habitants de ce lieu sont issus de l'immigration. Les trois écoles sont tous des écoles, des lycées techniques. Vous savez peut-être qu'en Allemagne, il y a un système à deux niveaux, à deux échelles. Il y a le lycée, c'est le lycée général ou supérieur et le lycée technique. Ici, il s'agit des élèves au lycée technique âgés entre 13 et 17 ans. Donc pour l'équivalent du système français, c'est fin collège et début du lycée. Mon premier constat, ça serait de dire qu'il n'y a aucun patron narratif schématique, comme dit James Verch. C'est-à-dire, on ne peut pas déceler un seul récit national partagé par les élèves. Deux exemples de ces contradictions inhérentes dans les récits allemands. Je vous les donne. D'abord, comment nommer le pays ? À Leutkirch, 90% des élèves parlent de l'Allemagne ou nomment le pays Allemagne, alors que dans les deux autres écoles, on a un tiers et un demi des élèves qui nomment la nation l'Allemagne. La RDA, l'Allemagne de l'Ouest, est nommée par trois quarts des élèves qui vivent à Oranienburg, donc dans le territoire de l'ancien RDA, alors qu'il n'y a que 3 sur 21 et 1 sur 16 dans les autres écoles qui nomment le pays Allemagne de l'Est, RDA. Il n'y a aucun élève qui nomme l'Allemagne de l'Ouest, l'ancien RFA, et il n'y a que 3 élèves sur 49 qui parlent des Allemands, qui nomment les Allemands en tant que collectivité nationale. Donc on a des différences très prononcées entre les trois écoles. Un autre exemple de divergence entre les récits, c'est le sens accordé à l'histoire. Nous parlons souvent de trois types de récits, soit progressiste, soit fataliste, soit une sorte de déclin. C'est-à-dire, est-ce que l'histoire va vers le progrès ou est-ce que c'est plutôt un récit qui va vers la défaite? Alors, ici aussi, il y a des différences assez prononcées. À Leutkirch, l'Allemagne de l'Ouest, on a 16 récits progressistes qui finissent ou terminent avec le constat qu'après 45 et après 89, on est arrivé dans une époque démocratique, alors que deux parmi ses élèves parlent aussi d'un déclin qui constate avec la défaite, ils appellent ça la défaite de 45 en Allemagne. À Oranienburg, dans le territoire de l'Est, on a 12 sur 12 récits fatalistes, c'est-à-dire ils écrivent des listes où il n'y a aucune évolution temporelle. À Neukölln, au centre de Berlin, on a également 10 récits fatalistes où il ne parle que des nazis et de Hitler, alors que 6 sont formulés de manière progressiste où l'histoire constate que les voitures sont meilleures que d'antan, où le foot est plus intéressant. Ce que j'ai surtout voulu faire dans ma lecture de ces récits, c'est de m'interroger sur les formes littéraires des récits afin de donner des pistes pour comparer des récits dans le cadre international. Autrement dit, les thématiques, les énoncés, je crois, ne nous permettent pas de comparer les récits de la même manière que si on regarde l'énonciation. La manière d'écrire est peut-être une manière, donne un moyen de comparer plus logique que si on compare les thématiques, les énoncés. Et j'aimerais esquisser deux thèmes. L'un, c'est quel genre ? Est-ce possible de définir le genre de l'écriture dans les récits allemands ? Et j'ai eu, pour ce faire, recours à deux théoriciens du récit qui travaillent à la fois sur la littérature et sur l'historiographie. L'un, c'est Dagmar Wolf, et elle essaie de définir des catégories, des structures historiographiques. Elle parle de quatre catégories. La première, c'est ce qu'elle appelle isolé, quand on a une liste d'informations sans lien les unes avec les autres. Deuxième catégorie, linéaire, où il y a des liens entre les informations. Troisième, épisodique, où il y a des liens, mais aussi des discontinuités qui sont mises en forme par le récit, et aussi la forme narrative, où il y a des liens, des discontinuités, mais aussi des contradictions et des contrastes qui sont montrés. Si on lit les récits allemands à partir des thèmes de Dagmar Wolf, nous constatons que presque tous les récits ont la forme linéaire ou isolée. On peut regarder ça à partir d'un petit... voilà, on regardera plus tard. Ici, vous voyez, j'ai essayé de numéroter un peu les récits. On a 28 sur 49 qui sont isolés, sans lien, et 21 sur 49 qui sont linéaires. Une autre manière de lire la structure des récits et de faire appel à Hayden White, qui lui a travaillé sur l'historiographie médiévale et a essayé de distinguer entre le récit médiéval et moderne. Qu'est-ce qui distingue une des formes de l'autre? Et pour lui, les annales sont caractérisé par des listes datées d'informations sans lien. La chronique est marquée par une liste datée d'informations, mais qui est structurée par ce qu'il appelle un centre moral ou un centre social, comme la nation ou la vie du roi. Pour ce qui concerne le récit moderne, il faut, d'après White, que le récit ait une fin, qu'elle a une clôture, et aussi qu'elle est caractérisée par l'autorité, c'est-à-dire un sujet qui parle et un prédicat énonce l'auteur. Ici, on caractérise un peu les récits de cette manière. Et là, suivant White, on arrive à un résultat un peu plus compliqué, mais on voit qu'on a 6 sur 49 des récits qui sont de l'ordre des annales ou de la chronique, mais la plupart sont plutôt modernes. 44 ont un centre social, 37 une autorité, et aussi 16 sur 49 qui ont une clôture. Donc on a une sorte de mélange historiographique, un mélange entre un récit médiéval et aussi un récit moderne. Donc on ne peut pas vraiment trancher et dire que la conscience historique allemande à leur époque, à l'heure actuelle, dans les lycées allemands, est de l'ordre médiéval. Ni de l'ordre moderne, mais on a un mélange, une sorte d'historiographie contradictoire. Très brièvement, je vous montre quand même pour que vous puissiez avoir une impression personnelle des récits, vous montrez trois types assez typiques. La première, raconter l'histoire de l'Allemagne comme vous le voulez. On a ici la liste. C'est très, très souvent, on en voit ce genre de liste. Moyen-Âge, Napoléon, Hitler et Chancelier. Voilà. La deuxième que je vous montre, c'est aussi en forme de liste. Il y a une liste d'informations ici, des petites phrases, mais il n'y a aucun lien entre une phrase et l'autre. Et il n'y a pas de chronologie non plus. Je vous traduis pour que vous ayez aussi une impression. La première ligne, je vous traduis simplement. La première et la deuxième guerre mondiale, Himmler, c'est un mélange entre Himmler et Hitler. L'émergence de la RDA, la division du pays en l'Est et l'Ouest par le mur. L'histoire des villes différentes, l'émergence des musées et des lieux touristiques à Berlin, la guerre des paysans, le chômage en Allemagne, l'émergence de l'Allemagne. Là, il y a un mot que je ne comprends pas. S'il y a peut-être des gens allemandophones... J'ai beaucoup regardé ça, je ne sais pas, mais c'est quelque chose en Allemagne. Les différentes maladies en Allemagne, l'émergence des lois, le chauffement climatique de l'Allemagne, la pollution en Allemagne, l'Est, les produits de l'Est et l'Ouest en Allemagne, le saumon, le chocolat et les sucreries, les différentes langues dans les régions de l'Allemagne, les produits de différentes régions de la Bavière, de la Schleswig-Holstein, Berlin et Brandenburg. Voilà. Un récit assez typique. Troisième est aussi un typique. Répondant à la question « Raconter l'histoire du pays », nous avons dans quelques cas une réponse autre. Ici, l'histoire de Hitler, tout simplement. Hitler était un raciste. Il n'aimait pas les gens qui avaient des yeux bruns ou des cheveux blonds. Ce n'est pas logique, mais c'est ce qui est écrit. Un jour, il avait distribué beaucoup de morceaux de papier dans un village, demandant aux gens de se joindre à l'armée. Et beaucoup s'y ont intéressés. Hitler avait alors une armée. Ce qu'il voulait atteindre, c'était que les gens avec des yeux bruns ou les cheveux blancs devaient être tués. Pour cela, il avait aussi installé des douches de gaz dans lesquelles les gens devaient entrer et ne plus pouvoir respirer et puis mourir. Hitler avait également des détenus. Il avait fait deux guerres et a construit un mur pour que les gens ne puissent plus se voir. Mais à la fin, il a dit à son armée, « Je veux maintenant me brûler et... cacher les cendres. » Voilà, ce sont des récits ou des éléments de récits qu'on retrouve à plusieurs reprises parmi ses élèves. Une autre question théorique, formelle qu'on pourrait poser, c'est quel type d'élèves auteurs trouve-t-on en Allemagne? Et est-ce qu'ils forment un ensemble distinct? Et de quelle manière revendiquent-ils l'autorité dans le sens de la vraisemblance ou la crédibilité, soit par la citation, soit par les techniques littéraires? Pour White, on pourrait simplement dire que l'autorité de l'auteur est présente dans la mesure où on peut repérer un centre moral. Mais on peut aussi faire appel à des théories littéraires en... regardons du côté de la focalisation comme Bruno Garnier a fait tout à l'heure. Car presque tous les élèves, à la différence des élèves français d'ailleurs, adoptent la focalisation neutre à la troisième personne sans se nommer et sans écrire des marques d'énonciation. Comme si l'histoire se racontait elle-même. Il n'y a que 7 exceptions à cette technique. Il y a 3 qui font des remarques sur leur propre apprentissage historique, sur leur propre écriture, et aussi 4 remarques sur la discipline historique elle-même. La conclusion que j'en tire, c'est qu'on a une sorte d'historiographie contradictoire dans la mesure où les élèves respectent une certaine convention historiographique dans la mesure où ils ne se nomment pas, ils ne parlent pas la première personne, mais en même temps, ils renoncent aussi à des marques d'objectivité, de la citation des preuves extérieures ou textes. Donc, je crois que là, une contradiction assez courante. Et ce qui frappe surtout, et vous l'avez déjà vu bien sûr, c'est que beaucoup d'élèves délèguent la responsabilité de l'explication de l'histoire à la figure d'Hitler. Il faut bien sûr concevoir cette figure d'Hitler comme une figure littéraire et non pas historique de vrai. Si on voit, j'ai essayé de... Enfin, je montre un peu les statistiques sur le nombre de mentions de thèmes parmi les 49. Vous voyez ici très simplement que 44 sur 49 parlent de Hitler, mentionnent Hitler, 34 la Deuxième Guerre mondiale, 25, etc. Mais le message que je voulais faire passer ici, c'est la fréquence de la mention de Hitler. Je sais que le temps... Donc, c'est pour ça que je passe assez rapidement sur la statistique. Une autre manière de lire les récits, c'est de se demander quel est le thème central. Et ici, j'ai également essayé dénombrer le nombre de thèmes centraux des récits. On a bel et bien 18 qui parlent de l'Allemagne en réponse à la question « Raconter l'histoire de l'Allemagne », mais 11 ne parlent que de Hitler, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et il y a 9 aussi qui parlent de la guerre et de Hitler. Mais surtout, on a là 20 sur 49 qui mettent au centre de leur récit plus ou moins Hitler. Et c'est pour ça que j'ai poursuivi ma réflexion sur ces récits en essayant de déceler la signification de ce personnage, Hitler. On peut s'ajoute à cette dimension quantitative une dimension qualitative, car on attribue à Hitler des qualités humaines riches. Il est quelqu'un qui est mort, qui a été tué, qui a le pouvoir, qui est un guerrier, qui est un tueur, ou qui est une force d'histoire universelle dans la mesure où il a construit le mur de Berlin ou créé deux guerres. Et en plus, c'est à Hitler qu'on attribue une trame historique. Le mot ou l'énoncé Hitler paraît 5 fois sans aucun lien, où il n'y a aucune phrase, alors que le mot Seconde Guerre mondiale apparaît 24 fois. Donc vous voyez que si on compare ces deux choses, on en prête à Hitler le privilège d'être l'objet d'un récit. Et on lui prête aussi plusieurs qualités humaines. Et cette personnalisation de l'histoire, où on délègue à une figure centrale l'autorité sur le devenir de la nation, prolonge effectivement un charisme qu'on aurait cru défunt. Mais elle a aussi des fonctions proprement narratives, car il sert Hitler à réduire la complexité. Mmh. Et il est, pour reprendre les définitions de Pierre Fontanier, une métonymie de la cause. On désigne un objet, la nation, par le nom d'un autre objet, Hitler. Pour résumer, existe-t-il des traditions narratives nationales? Et si oui, quelle est la tradition allemande? Pour le cas de l'Allemagne, il me semble qu'il y a très peu d'histoires exemplaires auxquelles les élèves s'identifient. Il y a, au niveau de la temporalité est marquée plutôt par l'immobilité. À Leutkirch, les élèves parlent d'un temps démocrate, comme si nous sommes arrivés dans, dans l'ère démocratique et que nous y sommes et que ça ne bouge plus. À Neukölln, la guerre a eu lieu et l'énoncé central, c'est un passé détaché du présent. Et à Oranienburg, il n'y a aucune référence à la temporalité, aucun développement du temps. Les genres sont, comme on l'a vu, marqués par une structure isolée, linéaire et sans clôture. Et les narrateurs assurent généralement un centre social et moral qui est fondé sur un mélange entre l'historiographie médiévale et moderne. Le narrateur soutient, il neutre surtout, il soutient l'illusion objectiviste, mais en même temps, l'instance narrative est contradictoire. Comme nous l'avons vu, le point de vue neutre, c'est-à-dire la convention historiographique, est mélangé du refus de la citation. Voilà. Et finalement, la personnalisation, la délégation de causalité historique à l'intentionnalité de cette personne, sinon la forte déférence à Hitler en tant que rituel explicatif est, je crois, le caractéristique central de ces récits. Et je termine avec une question. J'aimerais vous demander, ceux qui travaillent sur d'autres pays, est-ce que ces qualités littéraires du récit fournissent des critères de comparaison des consciences historiques? Le genre, la structure, le fait ou la manière de nommer le pays, le jeu avec les conventions historiographiques et le rôle de figures diégétiques qui paraissent dans le récit même. Je m'arrête là. Merci.